Eh bien, c'est arrivé par surprise, mais peut-être qu'un jour, l'heure viendra sur nous tous de manière aussi surprenante. Et alors, il faudra être prêt. Il s'agira alors d'être prêt et d'entrer dans la gloire avec lui, bien que je ne sois pas préparé moi-même ou que je n'ai pas préparé de parole. Je voudrais lire la parole que j'ai déjà lue aujourd'hui. Chez moi, je ne l'ai pas vraiment lue pour la lire ici, mais je l'ai lue et je veux la relire ici. Je veux lire Galates 4, du verset 6. Galates 4, à partir du verset 6. « Or, parce que vous êtes maintenant des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Parce que, par conséquent, tu n'es plus un serviteur, mais un fils. Et si tu es un fils, tu es aussi un héritier par Dieu. Il est vrai qu'alors, autrefois, quand vous ne connaissiez pas encore Dieu, vous serviez des dieux, qui par leur nature ne sont pas du tout des dieux. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous vous tourner de nouveau vers les éléments misérables et pitoyables et avoir envie de les servir de nouveau comme des serviteurs? Peut-être seulement en attendant jusqu'ici cette parole. Je pense que cet homme de Dieu, Paul, écrit ici ces paroles aux Galates, mais je pense qu'elles n'étaient pas seulement importantes pour eux en ces jours-là, mais qu'elles le sont aussi de nos jours. Et il est bon que nous sachions ce que nous avons été, que nous sachions que nous étions des esclaves du péché, que nous étions soumis et que nous servions le diable et tout ce qui était là. Mais par la grâce de Dieu, nous savons que nous avons été rachetés et que maintenant, nous ne sommes plus des esclaves ou quoi que ce soit, mais que nous sommes devenus des fils de Dieu. Oui, et en effet, nous pouvons crier « Abba, cher Père », personne, frères et sœurs, ne peut crier ou prier du fond de son cœur comme un vrai fils. Il sait comment invoquer le Père, il sait comment demander, il sait à qui il parle. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous savons en qui nous croyons, nous savons qui nous prions et à qui nous nous sommes confiés. Nous savons à qui nous appartenons et nous voyons ainsi que ce ne sont plus des dieux morts ou des idoles que nous servons comme nous le faisions auparavant, mais que nous servons le Dieu vivant. Oui, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a appelés, qui nous a cherchés, qui nous a attirés à lui de tout ce dans quoi nous étions plongés et qui a fait de nous ses héritiers. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir. Il est dit ici, dans la deuxième partie du verset 7, « Et si tu es fils, tu es aussi un héritier par Dieu. » Et cela nous rend joyeux. Frères et sœurs, c'est un fait, même si nous n'avons peut-être rien à enregistrer ici-bas. Nous savons une chose, l'héritage nous est assuré. L'héritage auprès de notre Dieu, c'est ce qui est écrit, c'est ce que dit Paul. Si tu es un fils, tu es aussi un héritier par Dieu. Et cela nous rend joyeux et nous rend heureux. Bien sûr, il se peut que les gens se glorifient et s'exaltent de nos jours, pensant qu'ils ont tout et qu'ils possèdent les plus grandes parts d'héritage mais qui existent sur terre. Mais à quoi nous servent-ils? Ils sont tous éphémères, mais l'héritage qui nous a été... Non, ils sont tous éphémères, mais l'héritage qui nous est accordé, frères et sœurs, est un héritage qui est valable pour l'éternité et qui est en haut, là où il n'y a ni mythe, ni rouille, ni rien d'autre, mais un héritage qui nous a été préparé par Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes joyeux dans nos cœurs. Et les hommes qui ne le comprennent pas, qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu, ne peuvent pas non plus comprendre pourquoi nous pouvons nous réjouir, pourquoi nous pouvons pousser des cris de joie, pourquoi nous pouvons exulter, pourquoi nous pouvons adorer Dieu. Oui, pourquoi nous ouvrons la bouche? Parce que le cœur est plein. C'est pourquoi la bouche déborde. Nous ne prions pas des idoles mortes. Celui qui n'a pas fait d'expérience avec Dieu ne le comprend pas. Et il s'énerve, il se heurtera à ceci ou à cela. Mais ceux qui comprennent, ce sont ceux qui ont expérimenté Dieu, qui ont vécu une expérience avec Dieu et qui ont fait l'expérience avec Dieu. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous fassions tous des expériences avec Dieu et que nous puissions entrer, que nous devenions ses fils ou ses fils de ses filles, que nous recevions l'héritage, non pas ce qu'un homme nous donne sur la terre, mais ce qui nous y prépare à aller dans la gloire. Frères et sœurs, la joie est là, car nous savons le grand héritage que je vais bientôt recevoir, même si sur terre, je ne suis rien. Bien sûr, les gens peuvent dire, qu'est-ce que tu es? Bien sûr, je ne suis rien sur terre, mais je sais que c'est là que l'héritage est préparé pour moi, là-bas dans la gloire. Gloire à notre Dieu, à lui la gloire. Je pense que nous pourrions tous commencer à pousser des cris de joie et d'allégresse. Nous qui avons fait l'expérience du Seigneur, je voudrais vous raconter quelque chose. Un jour, des gens sont venus me voir et tous deux ne sont pas croyants, mais l'un d'eux l'était autrefois. Et il est retombé. Et lorsque nous avons commencé à faire tourner le magnétophone avec les chants, l'homme a commencé à prendre la fuite et il s'est enfui de l'appartement. Pour quelle raison? Pourquoi? Vous voyez? C'est comme ça, on se sépare là où le Seigneur n'est pas, là sont les ténèbres, là est là le diable, et là est le diable, et on se heurte, et alors on prend la fuite, on peut même pas supporter des cantiques. Mais nous n'avons pas besoin de prendre la fuite, nous nous rassemblons autour de sa parole, et nous savons qu'elle est précieuse, que Dieu continue à nous bénir. Amen. Que les louanges et les remerciements soient rendus au Seigneur. Je voudrais lire le verset 4 du chapitre 3 d'Éphésiens. Chapitre 3, verset 4 maintenant. Chapitre 3, verset 4, Éphésiens. Par là, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère du Christ, ce qui, dans les siècles passés, n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la promesse en Jésus-Christ par le message du salut, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, a été conféré ce ministère de la grâce d'annoncer aux païens le message du salut concernant les insondables richesses de Christ, afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses, afin que par l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit désormais manifestée aux autorités et aux puissances qui sont dans les lieux célestes. Ce dessein qu'il avait formé de toute éternité, il l'a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons une joyeuse assurance et un libre accès auprès de Dieu avec une joyeuse confiance par la foi en lui. C'est pourquoi je vous demande aussi de ne pas vous décourager dans mes souffrances pour vous, car c'est une gloire pour vous. Quand nous lisons une telle parole de Dieu, Elle nous transperce la moelle et les os. Paul, apôtre du Seigneur, veut donner des explications, des éclaircissements sur ce que Dieu a conçu et réalisé avant tous les temps, mais il ne pouvait le faire que parce que cela lui avait été révélé à lui-même. Il n'était plus assis au pied de Gamaliel, mais au pied de Jésus-Christ, dont il est lui-même écrit qu'il est le mystère de Dieu. Et en lui sont cachés et révélés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Les deux. Cachés et révélés. Cachés pour les non-croyants, révélés pour les croyants. Car il en est ainsi. Paul écrit à un endroit, probablement dans 2 Corinthiens 4, « Si l'évangile que nous annonçons, versets 3 et 4, est caché, 2 Corinthiens 4, c'est seulement à ceux qui périssent parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux. Mais pour ceux qui ont reçu la foi, la lumière s'est levée dans les ténèbres. » Paul a pu éclairer les croyants de cette époque sur la réalisation du mystère de Dieu. S'il pouvait être parmi nous aujourd'hui comme un tel homme de Dieu, il ferait la même chose. Peut-être y aurait-il eu des gens à l'époque qui auraient pu dire, je ne sais pas, Paul, tu sais, tu veux donner des explications sur des choses que Dieu a prévues avant la fondation du monde. Oui, c'est vrai, car Dieu l'a révélé. Et quand Dieu révèle quelque chose, nous pouvons le proclamer. Tout le plan de salut de Dieu est une révélation de Dieu. Et une révélation entraîne une autre. Et il m'est venu à l'esprit, lorsque les différentes paroles ont été lues, de me demander si, en ce lieu, nous entendions bien ces choses, si nous les affirmions, si nous les croyons de tout notre cœur. Cela d'une part, mais si d'autre part, nous avions fait aussi l'expérience avec Dieu de ces choses d'une manière telle que tout cela puisse devenir pour nous esprit et vie. Il y a une grande différence entre le fait d'entendre les choses et de les considérer et les affirmer et le fait d'avoir fait une expérience personnelle avec Dieu de ces choses que nous écoutons. Vous savez que nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la puissante révélation de sa parole. Mes frères et sœurs, je n'ai pas dit cela uniquement lors des funérailles, cela peut être dit partout. Ne peut vivre éternellement que celui qui a reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Personne ne peut dire « je crois à la parole révélée par Dieu » et avec cela, je serai là-bas. Mais la vie éternelle doit être réellement à nous. Vous direz, frère Franck, nous avons pourtant vécu une conversion, etc. Mais c'est justement ce que nous voulons aborder par là. Si nous avons vraiment expérimenté Dieu d'une manière telle que nous sachions exactement son esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction. Son esprit rend témoignage à notre esprit. Non pas que nous devions nous convaincre nous-mêmes de quelque chose. Il faut que nous en arrivions à douter de nous-mêmes pour que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Non pas que nous devions nous aider, mais que l'Esprit de Dieu puisse rendre témoignage à notre esprit de telle manière qu'il n'y ait plus rien d'incertain, mais une telle certitude que l'ennemi ne puisse plus rien nous ravir, mais que nous sachions une fois pour toutes que nous avons fait l'expérience avec Dieu et que nous avons reçu la vie éternelle. Nos fautes et nos péchés ont été expiés. Ah, je crois que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Nous aspirons à faire une nouvelle expérience avec Dieu. Une nouvelle expérience de Dieu. Et toutes les tribulations qui s'abattent sur nous, et si elles n'ont d'autre effet que de faire fléchir nos genoux devant le Seigneur, et pas seulement nos genoux, mais nos cœurs, tout notre être, tout notre esprit, que nous soyons courbés devant le Tout-Puissant, qu'il puisse se manifester à nouveau dans notre vie, oui, qu'il puisse faire revivre son peuple. Dans ce contexte ici, lorsque Paul a écrit aux Éphésiens qu'il voulait donner des éclaircissements sur le sens de la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses, il recite la deuxième partie du verset 9. d'Éphésiens 3, et puis il lit maintenant le verset 10, « Afin que par l'Église, la sagesse multiple de Dieu soit désormais manifestée aux autorités et aux puissances qui sont dans les lieux célestes. » Éphésiens 3, 9 et 10. Vous savez que Dieu a trouvé dans l'Église le lieu où il peut se manifester. Il n'y a pas de lieu que nous puissions nommer. Personne ne peut dire « On adore à Jérusalem » ou « Sur la montagne sainte, on adore là où... » On adore là où l'on se réunit au nom du Seigneur, où l'on écoute sa parole et où l'on y croit, où l'on adore. C'est là qu'on adore en esprit et en vérité, c'est là. Ce n'est pas nécessaire de faire un pèlerinage dans une ville ou un lieu soi-disant saint, mais là où Dieu nous parle. Nous sommes arrivés dans le lieu saint. Et là, que ce soit sur la montagne ou dans la vallée, cela n'a pas d'importance, mais c'est le lieu où Dieu nous parle, qui nous imprègne de l'esprit de vérité. Et c'est justement ce que la plupart des gens ne veulent pas. Il y a suffisamment de croyants qui se promènent avec l'esprit de mensonge. Ils ne peuvent pas supporter la vérité. Ils ont peur de la vérité. Je ne dis pas cela pour rien. Et lorsque Paul, à cette époque, écrit au chapitre 4, il ne se contente pas d'expliquer d'éclaircir le mystère caché en Dieu, le Créateur, mais il explique aussi comment les croyants peuvent parvenir à saisir tout cela. Puis il dit ici, au chapitre 4, du verset 22, Éphésiens 4, 22, « Car selon notre ancienne manière de vivre, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui va vers la mort par suite de ses convoitises trompeuses, pour que, en revanche, vous soyez renouvelés dans votre âme comme il se doit. » Cette phrase ici, « Pour que, en revanche, vous soyez renouvelés dans votre âme comme il se doit. » Dans votre être le plus profond, dans votre âme, comme il se doit, afin de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu dans la vraie justice et la pureté. Nous avons déjà étudié cette parole ici, mais Paul dit ensuite, puisqu'il l'écrit à de tels hommes, au verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et dites la vérité chacun à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Il faut même dire aux croyants, et c'est pourquoi rejetez le mensonge, et dites la vérité chacun à son prochain. Il ne s'agit donc pas seulement de nous réunir et de dire « Oui, nous sommes volontiers disposés à être éclairés sur la réalisation du plan du salut de Dieu tel qu'il a été révélé à ses serviteurs, aux apôtres et aux prophètes. » Mais nous devons aussi être prêts à entendre le rappel à l'ordre que Paul conduit par le Saint-Esprit à nous donner, à nous tous, pas seulement à ceux qui ne sont pas ici, mais à nous qui sommes ici ce soir. Et s'il n'y avait pas tant de mensonges parmi les croyants, la situation serait différente. Il n'aurait pas été nécessaire de décrire de tels versets. Et beaucoup n'ont pas pu accepter la vérité parce qu'ils n'ont seulement... Parce que non seulement ils mentent, mais ils ont l'esprit de mensonge. Et pour autant qu'ils écoutent la vérité, ils renversent tout. Quand on leur parle de Dieu et qu'on leur fait pourtant comprendre à l'aide des Saintes Écritures que Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit, etc. Et ils s'en vont et puis ils disent quand même, ils ne croient plus au Père et au Saint-Esprit. Ils ne croient plus au Père et au Saint-Esprit et ils ne croient plus qu'en Jésus. Vous avez déjà entendu cela? C'est comme ça. Ils entendent très bien ce qu'on dit, mais ils s'en vont et ne disent pas ce qu'ils ont entendu, ni ce qui a été dit. Ils disent toute autre chose, c'est-à-dire ce que l'esprit de mensonge leur dicte. Sinon, ils ont de la mémoire. Ils peuvent vous raconter ce qui s'est passé en Russie ou en Sibérie. Ils peuvent encore vous le raconter 25 ou 30 ans après. Mais ils peuvent partir de Krefeld et n'avoir que 20, 50 ou 100 kilomètres en chemin. Ils ne se souviennent plus de ce qui a été dit. Vous ne savez plus, ils ne savent plus ce qui a été dit. Ce que Khrushchev a dit, ils le savent encore, mais ce qui a été dit ici sous le coup de la parole de Dieu, ils ne le savent plus. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, lui recevra la vérité, l'appréciera et s'en réjouira, comme si nous avions reçu le plus grand sort, le plus grand cadeau sur la terre qui puisse être accordé à un être humain. Et de telles vérités bibliques ne peuvent pas être déformées ou présentées autrement. Mais c'est ainsi que nous les recevons, telles qu'elles nous sont dites et présentées dans la parole de Dieu. Mais c'est justement là que se manifeste, il nous suffit de remonter à l'époque de Jésus et de voir comment ils lui ont toujours donné, dit quelque chose. Et le frère Schwill l'a déjà mentionné, après que la vérité en personne se soit trouvée au milieu d'eux, ils ont dit, oui, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que vérité? Mais la vérité en personne était là, qui pouvait dire de lui-même, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et un qui... C'était qui, Seigneur? Il a dit, Seigneur, montre-nous le chemin où nous devons aller. Et le chemin était là. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, il est en effet possible de parler de choses pieuses sans avoir un lien personnel direct avec ce que Dieu fait vraiment maintenant. Et c'est pourquoi, ici, en ce lieu, il ne doit pas y avoir de pieux bavardage. C'est ici que Dieu doit recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et c'est là qu'il faut dire, rejeter le mensonge, peu importe sous quelle forme et de quelle manière, mais tout doit être déposé et nous devons dire la vérité à notre prochain. Ça, c'est notre devoir. Rien ne doit être dit autrement que comme il se doit devant le Seigneur. Il est dit ici ensuite au verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et dites la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Le verset 26, si vous êtes en colère, ne péchez pas, par là que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela non plus ne doit pas exister. Il ne faut pas se mettre en colère et laisser le soleil se coucher dessus. Mais un enfant de Dieu se donnera de la peine, oui. Pas seulement cela, mais l'Esprit de Dieu le convaincra. Et je vous le convaincra. Et je vous dis la vérité. Seul Dieu peut faire cela dans votre vie. Dans notre vie. Que nous n'imputions pas le mal. Qu'en général, quand quelque chose nous arrive, quelle que soit la forme, nous disions simplement, Seigneur, pardonne le frère ou la sœur ou n'importe quoi. Qui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. On ne prend pas d'abord les choses en soi et on les construit encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une avalanche et que l'on pêche presque. Mais on apporte tout au Seigneur. On ne se nourrit pas de ces choses. On le on le lui dépose et alors il le fera bien à la gloire de son nom. En soi, un croyant ne peut pas se mettre directement en colère, puisqu'il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Mais nous savons que la colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. Si un homme se laisse emporter d'une manière ou d'une autre, pour être en colère, ou bien en général, pour se mettre en colère, mais vous savez que se mettre en colère, c'est différent que être en colère. Car si quelqu'un se met en colère, c'est qu'il est méchant. C'est qu'il est méchant. Il y a une différence entre être en colère et se mettre en colère. Quoi qu'il en soit, tout cela ne doit pas exister dans la vie d'un croyant. Il faut que l'homme nouveau se manifeste en nous et en nous tous. Quoi qu'il arrive, l'Écriture dit « Débarrassez-vous du vieil homme, dépouillez-vous et renouvelez-vous que nous soyons créés à l'image de Dieu dans la justice et la pureté et la pureté véritable. » Véritable. Mais nous avons aussi entendu dire que l'esprit s'oppose à la chair et la chair à l'esprit. Mais si nous nous laissons guider, conduire par l'Esprit de Dieu, nous accomplirons ce qui est spirituel. Nous n'agirons pas dans la chair. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous agirons dans l'Esprit de Dieu. Nous serons alors une bénédiction les uns pour les autres. Nous n'aurons plus qu'une seule préoccupation. Ô Dieu, donne-moi une expérience réelle avec toi pour que cela soit possible. Une telle expérience avec toi qui fera tout simplement fleurir ma vie intérieure, la vie de l'Esprit lui-même, les heures d'affliction sont des heures de réflexion. Non pas que nous devions nous apitoyer sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mais nous pouvons nous regarder dans le miroir de la parole. Et si Dieu nous montre quelque chose, que nous le prenions à cœur et le portions au pied de la croix en sachant qu'il nous accorde sa grâce. Je me souhaite à nous tous, une nouvelle expérience avec Dieu, d'une manière si approfondie qu'il n'y aurait plus besoin d'aide, mais que nous serions tous aidés par Dieu, que nous puissions faire l'expérience de Dieu d'une manière telle qu'il n'y ait pas au milieu de nous un seul homme qui n'aborde les choses qu'en les connaissant peut-être en forme de connaissance, d'enseignement. Mais non, mais que tout dans notre cœur puisse devenir une révélation vivante de l'Esprit lui-même. Pas seulement dire oui, mais Dieu doit pouvoir dire son amen à cela. En ce que nous avons une rencontre réelle avec lui et que nous le vivons et l'expérimentons à nouveau. J'espère que vous savez ce que nous voulons dire, de quoi nous parlons dans tous les rassemblements de réveil, les réunions de réveil, quel que soit l'âge. Il n'y a pas eu de conversion flegmatique, il n'y avait pas de choses avec la tête, mais avec le cœur. Aujourd'hui, si un homme pense qu'il doit confesser quelque chose, puis qu'il se demande quand il doit le faire, puis qu'il remet à plus tard, puis qu'il réfléchit à nouveau pour savoir s'il doit le faire, si cela a un sens ou non, il se rend compte qu'il ne peut pas le faire. Savez-vous ce que la Bible dit? Avez-vous déjà lu en Samarie, lorsque la parole de Dieu a été prêchée, les gens ont ouvertement confessé leur agissement et il est dit qu'ils ont rassemblé les livres de magie, de sorcellerie et ont allumé un feu. Il ne s'agissait pas d'une conversion raisonnée ni d'une réflexion, mais voilà, la prédication, l'Esprit les avait saisis. Ils ont confessé. Rassemblés, ils n'ont plus demandé à un sacrificateur rien de plus. C'est là que Dieu leur avait parlé. Ils sont pas allés vers un prêtre ou quoi que ce soit. C'est là qu'ils ont fait leur compte. C'est là qu'ils ont fait toute une affaire réelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous réfléchissons. Qui sait combien de temps? Et puis, il y a longtemps que cela nous a quittés. Et nous ne savons pas comment nous pourrions avancer. Que Dieu vienne sur nous d'une telle manière par sa parole et par son Saint-Esprit. Je ne dis pas que quelqu'un ici doit commencer à raconter des histoires, mais s'il y a quelque chose qui nous donne du fil à retordre, comme ce fut le cas pour les Samaritains, c'est qu'ils ils ont été saisis par la prédication et par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont confessé ouvertement leurs péchés, qu'ils ont dit ce qu'ils avaient fait auparavant, qu'ils ont mis les choses en ordre et qu'ils ont fait le ménage immédiatement. Et il arriva que le sorcier lui-même se convertit. Comment? C'est une autre affaire. Mais son affaire était terminée, car Dieu avait alors son affaire, c'est-à-dire toute une autre affaire. Frères et sœurs, si Dieu doit faire une chose au milieu de nous, c'est une chose entière. Et avec des demi-choses, nous aurons du chagrin toute notre vie. Mais si nous permettons à Dieu de faire une chose entière, alors tout le chagrin s'arrête. Tout s'arrête. Quelque chose de nouveau apparaît. Nous faisons table rase de l'ancien, même s'il s'éteint dans le feu et les flammes. Nous faisons table rase. Mais vous pouvez vous y fier. Comme Dieu était alors puissamment présent pour agir autrefois, c'était quelque chose de minutieux. Et c'est ce dont nous avons tous besoin, frères et sœurs. Quelque chose de si minutieux, pas de superficiel, mais de minutieux. Et si quelqu'un n'est pas libéré de quelque chose ou de ce qui peut être un obstacle pour nous, criez-le ici ou à la maison pour que nous nous en débarrassions, pour que Dieu puisse se révéler. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de dire « Ah, je vais me perdre mon image » ou « Quelqu'un va me regarder de travers ». Qui est n'importe qui et qui sommes-nous? Nous l'avons entendu, le Seigneur se prépare déjà des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Et pourquoi ne le ferait-il pas de nous, en qui il a fait de si grandes choses? Il faut être capable de sauter une fois par-dessus son ombre et d'être saisi par Dieu de telle manière que tout nous est égal. Même si l'on donne tout de soi-même et si l'on sait seulement, voilà, l'Esprit de Dieu t'a saisi, tu ne peux plus rentrer chez toi et encore réfléchir à ce que tu vas faire alors et alors. Mais ici, dans ce lieu où Dieu nous parle, et que celui qui ne le dit pas tout haut le dise tout bas, mais parlons avec Dieu et arrivons à ce que l'Esprit de Dieu puisse agir sur nous d'une telle manière que cela devienne tout simplement manifeste. Manifeste que la prédication, et ici nous l'avons entendu, qu'elle ait un effet énorme, la parole du Seigneur sur nous. Cela ne peut se produire que là où les gens laissent la parole de Dieu agir sur eux. Et pas seulement cela, mais aussi là où l'Esprit du Seigneur fait vivre la parole en nous. Ici, à cet endroit, il pourrait y avoir un lieu où tous pourraient adorer sans méfiance, ni malice, sans soupçon, sans rien, en esprit et en vérité. Personne n'a besoin d'aller ailleurs pour trouver un lieu saint et une atmosphère sainte. Ici, il peut y avoir un lieu saint et une atmosphère sainte. Si le Saint nous saisit de son atmosphère sainte, combien de fois l'avons-nous entendu? Il s'agit de l'harmonie entre le peuple de Dieu. Il s'agit que chacun se hâte pour pouvoir sauver sa propre âme. Et comme nous l'avons déjà dit, ce qui doit être fait, doit être fait. Il n'y a pas de schéma à ce sujet. Ce qui est important, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous ne remettions pas les choses à plus tard, mais que nous puissions fassions en sorte que là où Dieu nous a parlé, nous mettions tout en ordre et que nous soyons corrigés, nous nous laissions corriger. Si quelqu'un, comme nous l'avons lu, dit, si vous vous irritez, ne péchez pas, et tout ce qui s'y trouve, nous pourrions penser que nous sommes passés à autre chose. Je vous le dis, nous ne sommes pas passés à autre chose tant que nous n'avons pas tout amené sous le sang de l'agneau. Il nous arrive d'oublier des choses pendant une semaine ou un jour et elles ne sont déjà plus là. Sauf si le Saint-Esprit nous a convaincus. Et alors c'est une autre affaire. En effet, il y a une très grande différence entre une personne qui dit « Écoute, pardonne-moi, je t'ai fait du mal. » C'est une chose. Mais si quelqu'un est sous l'effet du Saint-Esprit et que des larmes viennent, qu'il est brisé et qu'il dit « Seigneur, aie pitié de moi, je n'aurais pas dû faire ça, pardonne-moi. » C'est une toute autre histoire. Vous voyez, dans le langage populaire, nous avons tous des manières où, du moins, nous pensons en avoir. On peut faire certaines choses en fonction de la réflexion de l'esprit, mais... Donc de l'esprit humain, de la réflexion, de nos pensées, je veux dire. Mes frères et sœurs, nous avons entendu une parole de l'esprit de Dieu, une parole de révélation, une parole de puissance. Ici, les réflexions intellectuelles ne suffisent pas. L'esprit de Dieu doit pouvoir agir. Ici, quelque chose doit se produire en vérité, en pureté et en sainteté, à la gloire de notre Seigneur. Il ne s'agit pas de savoir, oh oui, je dois pardonner. Non, ça va plus que ça. Et c'est ainsi que l'homme nouveau est effectivement revêtu. Car il est écrit, Éphésiens 4, 24, revêtez l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la pureté que produit la vérité. En tant qu'être humain, peu importe qui nous sommes et ce que nous avons vécu avec Dieu, nous sommes tous convaincus de nouveau par la prédication de la parole. Nous sommes tous convaincus par l'Esprit de Dieu et il n'y en a pas un seul qui puisse se disculper. Mais le Seigneur est là. Il parle librement. Il nous acquitte, mais sur la base du sang versé. Il ne se contente pas de nous acquitter et de dire, tu sors maintenant libre. Le sang parle pour nous. Et au moment où nous nous trouvons coupables devant Dieu, nous ne pouvons pas simplement dire, alors pardonne-moi, mais nous ne pouvons pas ignorer le sang de l'agneau. Le sang couvre ma faute et me rend lumineux et blanc. Le sang de l'agneau me purifie. C'est ce qui importe, non seulement de dire quelque chose, mais de dire ce qu'il faut pour vivre, pour expérimenter ce qu'il faut. Dieu nous fera grâce. J'en suis convaincu. Vous savez que l'époque dans laquelle nous vivons est très grave et très courte et nous voulons tous subsister devant Dieu. Personne ne doit rester à la traîne. Nous n'avons pas besoin d'une prédication puissante. Nous avons besoin de l'action puissante du Saint-Esprit au milieu de nous, de telle manière que chaque cœur soit saisi, brisé, afin que nous puissions nous incliner devant le Seigneur et, si nécessaire, les uns devant les autres, afin que Dieu puisse nous relever et nous bénir de la richesse de sa grâce. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes nés de nouveau et nous pouvons dire « Abba, Père, cher Père ». Et Dieu sera assez miséricordieux pour nous pardonner, nous faire revivre, nous bénir à nouveau. Avez-vous tous ce désir dans votre cœur que Dieu veuille se manifester puissamment? Le chemin pour y parvenir passe par l'humiliation, passe par la profondeur. Il faut s'humilier, passe par de nombreuses tribulations et souffrances. Et vous pouvez certainement savoir pourquoi Dieu fait venir de telles choses, afin de nous faire tous plier à nouveau, de nous parler à nouveau en sa présence et même de nous briser. Car Dieu habite dans un cœur brisé et écrasé et dans un esprit humble. C'est ce que Dieu veut et désire. Et c'est pourquoi nous voulons nous laisser reprendre par l'Esprit de Dieu et dire, Seigneur, prends-moi comme je suis, façonne-moi, forme-moi. Ce jour-là, tout le reste n'aura pas autant d'importance que le changement intérieur, transformation intérieure d'un homme. C'est-à-dire ce que Dieu a pu faire en nous. C'est cela qui compte. Et nous savons que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Et pourtant, il est dit ici aux enfants de Dieu, rejetez le mensonge, dites la vérité, chacun à son prochain. Si vous vous irritez, ne péchez pas, etc. Dieu veut que nous nous conformions à tout cela afin que sa bonté soit sur nous. Ah, si nous pouvions avoir des réunions où il n'y a plus rien de dérangeant pour Dieu. Pour nous, il n'y a rien de dérangeant. Nous ne voyons rien, n'est-ce pas? Nous n'entendons rien. Mais Dieu voit et Dieu entend plus que nous ne voyons et n'entendons. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ne pas seulement percevoir ce qui nous saute déjà aux yeux, mais à demander à Dieu de nous aider. Et croyez-moi, ici, en ce lieu, nous n'avons aucun désir de nous impliquer dans des choses qui nous privent de bénédiction. Ici, en ce lieu, nous n'avons qu'un seul désir, nous rassembler, écouter la parole de Dieu, ne rompre la tige sur personne, ne juger personne d'aucune manière, mais que chacun s'examine soi-même et qu'ensuite il mange. Et nous nous examinons devant la face de Dieu en lui demandant grâce et pardon. Son sang nous lavera et nous purifiera et tout ira bien à la louange et à la gloire de son nom. Amen. Levons-nous et prions.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine.
Tel que je suis, ton sang me lave du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant ta sainte face. Dieu fidèle, tu nous as fait la grâce d'écouter ta parole. Maître fidèle, regarde-nous avec grâce. Regarde-nous de haut en cette heure, en ces instants. Maître fidèle, tu sais dans quel combat intérieur se trouvent l'un et l'autre. Tu sais combien de fois le doute veut s'emparer de nous, de tous ceux qui sont dans la foi. Maître fidèle, donne-nous un nouveau souffle, ô Dieu du ciel. Que ton sang précieux et saint, ô agneau de Dieu, répare tous les dommages, Seigneur fidèle. La réconciliation totale est obtenue par le sang versé, le pardon de toute faute et de tout péché. Seigneur, lave-nous, blanc comme la neige, fraîchement tombé, Maître fidèle. Révèle-toi à nous à nouveau. Nous aimerions que ta présence puisse se manifester, non seulement en parole, mais aussi en acte, Seigneur. Jésus, Seigneur Jésus, bénis au milieu de nous, vivifie-nous, ô Dieu, et là où c'est nécessaire que notre bouche s'ouvre et s'exprime. Si l'ennemi veut toujours à nouveau nous mettre des bâtons dans les roues, ô Seigneur, que nous le disions simplement dans le lieu où tu nous as parlé. Là, nous voulons te parler, Maître fidèle. Ô Dieu, nous te réclamons, Seigneur, mon sauveur et mon berger, qui a brisé la vie, brisé la voie de la vie pour nous. Seigneur, nous te prions de te frayer un chemin au milieu de nous aussi, que ta douceur soit ici, Seigneur, ta nature, ton amour, ta parole, ta puissance, ô Dieu. Seigneur, que nous ne saisissions pas tout cela seulement par l'intellect, mais que nous le vivions, l'expérimentons personnellement dans notre cœur. Ô Dieu, nous t'adorons, nous te rendons gloire qu'à toi, fidèle Seigneur Jésus, nous te prions. Pour nous, oui, pour chaque frère, pour chaque sœur, fidèle maître, ne laisse personne seul dans son combat. Ô Seigneur, mais soutiens-nous. Puissions-nous te saisir comme Jacob te t'a saisi autrefois. Puissions-nous te tenir comme il t'a tenu et lutter comme il a lutté, afin que le soleil se lève sur nous comme il s'est levé sur lui. Loué soit ton merveilleux et glorieux nom. Tu fais venir sur nous de telles choses, ô Dieu, non pas pour que nous désespérions, ni pour que nous ne nous réjouissions trop, mais pour que nous cherchions ta face, Seigneur, afin que tu puisses te révéler à nouveau au milieu de ton peuple. Ô Seigneur, nous te prions, Seigneur, fidèle, que personne ne manque à ton action, ô Dieu, mais saisis ce qui peut être saisi. Nous te remercions, ô Dieu. Et si c'est possible et si cela est dans ta volonté, ô Dieu, donne-nous des réunions comme ceux d'autrefois en Samarie, où toute une œuvre totale est accomplie à partir de la part de Dieu et où le diable est mis en échec et où il peut être révélé que la victoire de Golgotha ne consiste pas seulement en paroles, mais en actes, que tous les ennemis sont mis au marchepied de tes pieds. Ô Dieu du ciel, nous te louons et nous t'adorons. Seigneur, aie pitié de nous tous. Nous t'en remercions et nous glorifions ton sang précieux et saint. Alléluia à ton nom.
Amen.